Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Montes gelboe necros nec pluvia venian supervos. Mont de gelboe, que ni rosée ni pluie ne tombe sur vous, car sur toi était rejeté le bouclier des vaillants, le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint avec l'huile. Comment les héros sont-ils tombés dans le combat? Jonathas a été tué sur tes hauteurs, Saül et Jonathas, aimables et très beaux dans leur vie, même dans la mort, n'ont pas été séparés. Eh bien, chers frères, hier soir, nous chantions cette très belle antienne grégorienne, Montes Gelboe, qui reprend la lamentation du roi David à propos de la mort de son prédécesseur, le roi Saül, et de son fils Jonathas, avec lequel David était particulièrement ami. Cette prière, ce cantique du roi David est tiré de la Sainte Écriture. Pourquoi nous le chantons à cette période? Eh bien, parce que cela fait partie des lectures, des matines, de l'office des matines. L'Église nous fait lire la Sainte Écriture et pendant ce mois de juillet, nous lisons en particulier les premiers livres des rois ou premiers livres de Samuel, selon les appellations. Et cette mort de David, de Saül sur les monts Gelboé nous invite à faire un retour sur sa vie. Saül, qui est-il? Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, peut-être pas, ce qui est dommage parce que je pense que tous les catholiques devraient avoir un minimum de connaissance de l'histoire sainte et de ces grands événements de l'histoire sainte qui sont pour nous évidemment des leçons. Saül, qui est-il? Alors Saül, il vit à peu près donc vers 1050 avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc on est à peu près au 11e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, le peuple d'Israël est rentré dans la Terre Sainte et doit combattre les peuples qui s'y trouvaient, les Cananéens, les peuples païens. Et pour les combattre, Dieu met à la tête du peuple d'Israël ce qu'on appelle des juges qui sont suscités par Dieu pour diriger les armées, pour diriger le peuple, pour rappeler aussi les commandements de Dieu et l'alliance de Dieu avec son peuple quand ce peuple est infidèle. Parmi ces juges, il y a des noms qui sont bien connus comme Gédéon ou encore, puisqu'il y a même eu des juges femmes, Déborah par exemple, qui elle aussi donc a été juge. À un moment donné, étant donné que les peuples alentours sont gouvernés par des rois, le peuple d'Israël est tenté de demander à Dieu un roi. Dieu, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas parce que le roi d'Israël, c'est lui-même, c'est Dieu. Et mais Dieu va céder à ses envies et en répétant que il est meilleur d'être sous le joug de Dieu directement que sous le joug d'un homme. Les juges n'étaient pas directement des gouvernants comme des rois, mais ils avaient à la fois le rôle de gouvernants, de prophètes, etc. Et donc c'était un rôle plus particulier. En prenant ce rôle de roi, on a, en réclamant ce roi, ils veulent un gouvernement, un gouvernant vraiment temporel. Et Dieu donc leur donne ce gouvernant temporel en la personne de Saül. Saül qui est oint comme roi, donc une cérémonie, une consécration avec de l'huile sacrée. il est oint roi par le prophète Samuel, parce que le fait qu'il y a un roi n'empêche pas qu'il y a aussi encore des prophètes, et le prophète Samuel, on va voir bien entendu son importance. Donc Saül est effectivement choisi par Dieu. Il est de la tribu de Benjamin, donc la plus petite tribu d'Israël, qui avait été décimée à cause de fautes graves. Il est beau, charismatique, on dirait aujourd'hui, et donc c'est un chef de guerre qui a toutes les armes en main pour réussir, pour être un bon gouvernant, et à l'époque, gouverner correctement, c'était surtout vaincre les peuples alentours pour s'emparer de la terre d'Israël, comme Dieu l'avait demandé et comme Dieu l'avait autorisé. Les débuts sont brillants. Par exemple, Saül libère la ville de Jabès en Galaad et il apparaît donc comme un chef courageux, béni de Dieu. Cela, malheureusement, ne va pas durer. Et rapidement, Saül s'enorgueillit, ou plutôt, malheureusement, il se laisse un peu diriger aussi par le peuple. Il n'assume pas véritablement son statut de roi, et son statut de roi lui impose d'obéir d'abord à Dieu, à Yahvé, au Seigneur, et à ses commandements. Et là, ses commandements étaient très clairs et directement. C'était pas uniquement les commandements de Dieu, mais Dieu parlait par la bouche des prophètes parce que le peuple avait une nécessité, évidemment, de cette intervention divine quasi permanente pour être guidé. Bien sûr, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cela n'est plus nécessaire. Donc attention, je fais une petite parenthèse, mais ceux qui voudraient revenir en quelque sorte à cette époque et appuyer leur vie chrétienne sur des soi-disant prophéties, sur des révélations privées, etc., ce n'est rien d'autre qu'une tendance judaïsante, une tendance à revenir à l'Ancien Testament en ne mettant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a éclairé toutes choses, qui a éclairé les commandements de Dieu, qui les a précisés, d'ailleurs comme on le voit aujourd'hui dans l'Évangile, et donc qui nous a donné une direction sûre en instituant la Sainte Église catholique. Donc, attention, si à l'époque c'était tout à fait normal que le peuple élu soit dirigé en particulier par des prophètes et par des interventions divines, des révélations divines fréquentes, ce n'est plus le cas après notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cela n'est plus nécessaire, parce que le Messie, notre Seigneur, est venu et parce qu'il nous a enseigné toutes choses. Il a enseigné toutes choses qu'il faut savoir à l'Église pour être sauvé. Par conséquent, on n'a plus besoin de cette direction permanente. Par conséquent, il faut veiller aujourd'hui à ne pas revenir à cette mentalité, puisque aujourd'hui, ce serait fausser notre esprit et donc prendre des mauvaises directions et prendre le risque de se mettre sous la gouverne de faux Christ et de faux prophètes. Je ferme la parenthèse et je reviens à Saül. Saül va pécher en particulier par deux fois et par désobéissance. La première désobéissance, c'est l'impatience à Galgala. Le prophète Samuel lui avait dit « Attends-moi, rassemble tes armées et je viendrai au bout de 7 jours ». Septième jour, Samuel tarde, il n'arrive pas, il y a des soldats qui commencent à partir, on en a marre d'être ici, là, on va rentrer chez nous, finalement, Saül offre le sacrifice qui était prévu avant le combat à la place de Samuel. c'est s'arroger un pouvoir sacerdotal, alors que Saül, évidemment, n'est pas prêtre, il est roi, et cette distinction a été faite dès la loi de Moïse, et dès la loi de Moïse, il y a un peuple spécial, une tribu spéciale, pour offrir les sacrifices, n'est-ce pas, la tribu de Lévi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous voyez, les choses changent aussi selon la volonté de Yahvé ici, et à ce moment-là, c'est donc une désobéissance de la part de Saül d'offrir le sacrifice, de n'avoir pas attendu Samuel. Pourquoi il désobéit ? Sous la pression du peuple, effectivement. Est-ce que c'est une circonstance atténuante pour un roi ? Non, c'est une circonstance aggravante. Parce que le roi, il n'est pas censé se plier au désir du peuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas prendre en considération les éventuelles réclamations ou besoins qui seraient exprimés par le peuple. C'est tout à fait légitime, bien entendu. Mais en l'occurrence, il y avait un ordre clair de Dieu et de son prophète Samuel. Par conséquent, il fallait suivre cet ordre, ce que Saül ne fait pas. Première désobéissance, premier signe d'un certain orgueil, puisqu'il s'arroge la fonction sacerdotale, et de cette faiblesse aussi vis-à-vis du peuple auquel il veut plaire en tant que roi, pour garder sa place alors que sa préoccupation devrait être de plaire à Yahvé. Deuxième péché, cette fois c'est après une bataille, Dieu a ordonné l'anathème sur Amalek, les Amalécites donc. L'anathème ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que tout ce qu'on saisit, on le détruit, c'est tout, c'est simple. On le détruit par le feu, c'est ce qui était demandé par Dieu, en signe finalement aussi de sacrifice cette fois. On ne prend pas les bêtes, on ne prend pas les gens comme esclaves, etc. On détruit tout. C'est dur, mais c'est Dieu qui le demandait. Saül ne détruit pas tout, il garde ce qu'il y a de plus beau. Avec une bonne intention, pour offrir des sacrifices à Yahvé. On garde les plus beaux bœufs, les plus belles brebis, etc., dans une volonté de sacrifier à Yahvé. C'est ce qu'il dira à Samuel. Là encore, plus ou moins d'ailleurs, sous la pression du peuple. Deuxième désobéissance. L'intention est bonne, des sacrifices. Donc vous voyez qu'on peut pécher même avec des bonnes intentions, même avec un bon but. Ce but, pourquoi il devient mauvais ? Bah parce qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu a demandé. Si Dieu demande quelque chose de précis, et là il demande quelque chose de précis, vouer à l'anathème tout ce qu'il reste après la bataille des Amalécites, les bêtes comme les gens, on sacrifie, on tue tout le monde, puisque là c'était pas un sacrifice en tant que tel, d'une façon religieuse directement. Voilà ce que dit Samuel au roi Saül. Samuel dit: Yahvé trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de Yahvé? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance que l'idolâtrie, et les téraphimes, c'est-à-dire les idoles. Puisque tu as rejeté la parole de Yahvé, il te rejette aussi pour que tu ne sois plus roi. Parole terrible, évidemment. Dieu avait choisi Saül, eh bien, Dieu rejette Saül en raison de ces deux fautes qui sont des désobéissances graves. S'il n'est pas capable d'obéir à Dieu en tant que gouvernant, si au lieu d'obéir à Dieu, il se soumet à la pression ou au désir du peuple, effectivement, est-il capable de diriger au nom de Dieu le peuple de Dieu. C'est ça que veut mettre en valeur cet épisode. Saül demande pardon. Remarquons-le. Il regrette son péché. Il y a les paroles, donc la Sainte Écriture continue donc en exprimant le regret de Saül. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de Yahvé et tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Est-ce qu'il vaut mieux craindre le peuple ou craindre Yahvé ?» Yahvé ne revient pas sur sa parole. Il rejette Saül comme roi, même si Saül demande pardon. Saül, au lieu de faire pénitence, au lieu d'accepter, puisque une véritable conversion, un véritable regret de ses péchés aurait consisté à accepter la peine que Yahvé lui impose. Et si la peine que Yahvé lui impose, c'est de ne plus être roi, il aurait dû accepter cette peine, ce que malheureusement il ne fait pas. Donc voyez un peu la déchéance du roi Saül, due en particulier à la désobéissance. Je vous relis ces paroles du prophète Samuel parce qu'elles sont extrêmement importantes. Pour nous autres, pour les chrétiens, même aujourd'hui, Yahvé trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de Yahvé? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la docilité que la graisse des béliers. Combien jouent aujourd'hui avec les commandements de Dieu? Combien jouent aujourd'hui avec les commandements de l'Église, en prétendant avoir des vues supérieures? Si l'Église fait des lois, et l'Église en fait, et l'Église en a fait dans tous les domaines qui concernent notre vie chrétienne, eh bien, il faut obéir à l'Église. Parce que obéir à l'Église, c'est obéir à notre Seigneur, c'est obéir à Dieu, évidemment. D'ailleurs, ici, Dieu ne s'adressait pas directement à Saül, il s'adressait à Saül par l'intermédiaire du prophète Samuel. Quel est notre intermédiaire aujourd'hui? Ce ne sont pas des voyants, des voyantes, des personnes soi-disant qui ont des révélations, tout ça, c'est l'Église. Et l'Église ne procède pas par révélation, elle procède en développant ce qui a été révélé par Dieu. Il n'y a pas de nouvelle révélation, comme le dit le Concile du Vatican, donc Vatican I, il n'y a pas de nouvelle révélation. Il y a dans l'Église ce gouvernement par le magistère de l'Église, et ce gouvernement est soutenu non par révélation mais par le charisme, en particulier de l'infaillibilité, de sorte que le magistère de l'Église ne peut pas nous donner une doctrine qui est contraire à notre salut. Le magistère de l'Église ne peut pas nous donner une moralité ou des lois qui serait contraire à notre salut. Pour cette raison, donc, il faut le maximum d'obéissance et de docilité au magistère de l'Église. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas en acte de magistère de l'Église, c'est-à-dire de pape et d'évêques sous l'autorité du pape, d'évêques diocésains, d'évêques qui ont une juridiction dans l'Église, que faut-il faire? Il faut s'en remettre à ces siècles de magistère de l'Église et s'en tenir aux lois de l'Église telles qu'elles étaient avant la crise, telles qu'elles étaient donc avant Vatican II. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on n'a pas à réfléchir davantage. Bien sûr, toutes les lois de l'Église, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Il y a des lois plus secondaires, il y a des lois qui sont subordonnées à d'autres lois supérieures, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ceux qui prétendent défendre la tradition, défendre le Saint-Siège, etc., tout en désobéissant à des lois claires de l'Église, cela pose évidemment un problème. Cela pose un problème parce qu'on se trouve précisément dans ce cas-là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que nos visions personnelles sur la pénitence dans l'Église, sur la liturgie ou sur tout autre sujet. C'est simple. Il faut se rappeler cet événement grave, parce que c'est un événement grave de la part de Yahvé de choisir un roi et quelques années après d'être obligé de le révoquer. C'est un événement extrêmement grave et qui est une leçon pour nous tous, même si, bien sûr, nous tous nous n'avons pas la responsabilité que pouvait avoir le roi David. Néanmoins, la question de l'obéissance et de la primauté de l'obéissance et de la docilité à ceux qui parlent au nom du Seigneur, au nom de notre Seigneur, c'est-à-dire au magistère de l'Église, eh bien, il faut garder évidemment cette leçon. À partir de ce moment-là, la déchéance du roi Saül est inévitable. Il ne fait pas vraiment pénitence, il n'accepte pas la peine qu'il a reçue de Dieu, et donc il va continuer à exercer son rôle de roi, de gouvernant. Dans le même temps, Dieu choisit un successeur. Ce successeur n'est autre qu'un humble pasteur qui s'appelle David, qui est originaire de Bethléem, évidemment, qui sera une magnifique figure du Messie de notre Seigneur Jésus-Christ. David, là, par contre, vous connaissez le nom au moins. David est celui qui a vaincu le géant Goliath, le Philistin, qui, au cours d'un duel, David, auquel donc le roi Saül a promis sa fille Michal, il va lui reprendre, sachant que David a été choisi comme roi par Dieu et qu'il a été oint avec l'huile sainte par le prophète Samuel, eh bien Saül ne va avoir de cesse que de persécuter David. David va être poursuivi dans tous les lieux possibles et imaginables. Il eut plusieurs occasions de tuer le roi Saül. Il va s'amuser un petit peu dans une grotte, dans son campement, etc. Lui prendre ses armes et est-ce qu'il le tue, est-ce qu'il le met à mort alors que c'est lui le roi légitime, alors que c'est lui qui devait diriger le peuple? Eh bien non. Non, David ne cherche pas la guerre civile. Pour le bien du peuple, il se met de côté. Pour le bien du peuple, il ne met pas à mort celui qui a été roi, même s'il ne l'est plus. Pour le bien de la nation, il se met de côté et il attend que Dieu fasse le travail, si j'ose dire, c'est-à-dire que Saül meure. Saül donc est rejeté de Dieu et un esprit tourmenté. On a même l'impression, si on lit certains textes de ce livre de Samuel, et bien que Saül serait même peut-être possédé. Ça ne veut pas dire nécessairement possédé directement au sens strict, mais en tout cas, il est tellement jaloux, cette jalousie est tellement forte et mène à des actions maladives, à une certaine folie, que effectivement on peut se poser la question de la possession. Comment va finir le roi Saül? Je vous l'ai déjà dit, sur ces montagnes de Gelboé, on s'attaque aux Philistins, à l'ennemi historique qu'on retrouvera sous le roi David. Goliath était un Philistin. Les Philistins n'ont de cesse de persécuter le peuple de Dieu. Les Philistins, ils habitent au bord de la mer, hein, donc au sud-ouest de la Terre Sainte, la bande de Gaza. Pour vous situer géographiquement, normalement aujourd'hui, étant donné que c'est l'actualité, vous voyez où c'est, eh bien c'était dans la terre des Philistins, et donc régulièrement ils menaient des raids contre Israël, contre le peuple de Dieu, qui était le peuple de Dieu à l'époque, bien entendu. Aujourd'hui, il a été rejeté avec son rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il combat les Philistins, il se poste sur les montagnes de Gelboé, et mauvaise idée, ils sont nombreux, tout ça, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de voie de retraite. On peut se dire, étant donné qu'ils sont en hauteur et pas de problème, c'est plus facile d'attaquer les autres. Mais les Philistins, avec leurs flèches, vont atteindre mortellement Jonathas, vont atteindre mortellement le roi Saül. Et Saül ne veut pas, par orgueil, tomber entre les mains des Philistins. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son écuyer de le tuer. Évidemment, c'est un suicide, hein, demander à quelqu'un de nous tuer. C'est un suicide assisté, n'est-ce pas? C'est aussi d'actualité, malheureusement. Ça reste un homicide. Donc, son écuyer ne le fait pas, et le roi Saül se jette sur la lance et donc se suicide. Et son écuyer se suicide aussi après. Bref. Fin extrêmement triste, d'autant plus qu'avant cette bataille, pour savoir ce qu'il devait faire, il tombe dans un péché extrêmement grave, que condamnait auparavant d'ailleurs le prophète Samuel, hein, il parlait de la divination. La rébellion est aussi coupable que la divination. Eh bien, Saül va voir une espèce de voyante, n'est-ce pas, qui prétend parler aux morts. Et donc une nécromancienne, il fait parler l'esprit de Samuel. Alors Samuel va effectivement lui parler. Dieu permet parfois ce genre de choses, même si c'est dans un cadre qui est tout à fait grave, contre la volonté de Dieu, puisque c'est de la divination, mais Dieu permet quand même que Samuel s'exprime et lui dise, eh bien, ce soir, tu seras avec moi, c'est-à-dire ce soir tu seras mort, hein. Ça ne veut pas dire qu'il sera du bon côté au niveau de la mort, vu tout ce qu'il a fait, vu son suicide ultime. On peut craindre pour le salut, évidemment, de l'âme de Saül. Donc, voyez où mène un peu tout l'enchaînement des péchés. Que fait le roi David? Est-ce qu'il se réjouit? Ouais, super, il est mort, il m'a persécuté, il a voulu me tuer 10 fois, 20 fois, ouf, il est mort. Non, absolument pas. Au contraire, il s'attriste de cette mort. Pourquoi? Bah parce qu'il vaut mieux la conversion du pécheur. Il valait mieux que Saül se convertisse et dise « Je reconnais ma faute, maintenant c'est toi le roi, eh bien je me soumets, je me mets à ton service. » C'est ça qu'il aurait dû faire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais David, Et c'est une très belle arme, un très bel exemple. Nous le reverrons dans d'autres épisodes. Le roi David s'attriste de cette mort et même vient mettre à mort l'Amalécite qui se targue donc de l'avoir tué et qui est tout content et donc qui prétend se mettre au service de David. Voilà donc comment finit quelqu'un qui a été choisi par Dieu lui-même pour une fonction extrêmement grande et extrêmement grave comme la fonction de roi. Nous tous, mes bien chers frères, nous avons été oints avec l'huile, non pas pour être roi, pour être chrétien. Le jour de notre baptême et le jour de notre confirmation, nous avons été choisis, consacrés par Dieu pour notre vie de chrétien, comme le roi Saül a été choisi par Dieu pour cette fonction de roi. La réalité, bien sûr, est différente, mais la responsabilité reste la même, à savoir l'obéissance à Dieu. Nous avons beau être choisis par Dieu, et en tant que chrétiens, nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes élus, nous sommes choisis. Nous avons été oints avec l'huile des catéchumènes, avec le Saint-Crème, ces huiles saintes qui nous ont consacrés à Dieu pour vivre à son service, pour être ses soldats. La conséquence est que nous devons l'obéissance à Dieu. Nous devons une obéissance stricte. Nous devons cette obéissance au quotidien et cette obéissance à la voix de Dieu, non pas seulement directement à travers la Sainte Écriture, mais aussi indirectement à travers, je vous l'ai dit, le gouvernement de la Sainte Église, qui perdure, même si aujourd'hui on n'a pas d'autorité, je le répète, même si on ne peut pas considérer Monsieur Prévost comme véritablement successeur de Pierre, formellement au moins, eh bien, nous avons cette autorité de l'Église qui perdure à travers ses lois. Par conséquent, il faut rester obéissant à cette volonté divine qui a été manifestée à travers ces lois en particulier de l'Église. Si nous prenons la même mentalité que Saül, il y aura les mêmes conséquences. Elles ne sont pas nécessairement aussi graves. Le roi Saül avait une place particulière et donc doit en quelque sorte être un exemple particulier. Mais la réalité est ce que si on désobéit d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec ses bonnes intentions, puisque Saül a des bonnes intentions, que ce soit avec cette lâcheté, cette pression du monde, cette pression des familles, etc., etc., il y a beaucoup de pression aujourd'hui sur notre vie chrétienne et sur notre obéissance à Dieu, à notre Seigneur, à la Sainte Église. On ne peut pas s'excuser de cela. Le roi Saül s'excuse de cela. Ce n'est pas, ça ne fonctionne pas. Il y a une peine qui est due. Là, la peine, elle est claire avec le roi Saül parce que c'est une fonction. Dieu a donné la fonction. Dieu peut reprendre cette fonction. C'est, on ne peut plus clair. Quand on est chrétien, on l'est tout le temps. Donc Dieu ne nous reprend pas notre baptême, les marques, le caractère de notre baptême, évidemment, bien sûr. Mais si nous péchons, il est normal que nous en subissions des peines. Là aussi, cela ne veut pas dire que toutes les difficultés de la vie, les épreuves que nous pouvons avoir dans la santé ou dans les biens ou dans toute autre chose sont nécessairement des punitions de Dieu par rapport à nos péchés. ce ne serait pas une vision qui est juste, puisque nous le voyons dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Job, que Job, il a une vie tout à fait bonne, etc., et il est quand même éprouvé par Dieu, effectivement. Mais lorsque nous nous savons pécheurs, et même si nous nous sommes repentis, si nous avons demandé pardon à Dieu, fait pénitence, si nous avons des épreuves, si nous nous reconnaissons pécheurs, nous pouvons nous dire que d'une certaine manière, nous les méritons. Donc, là aussi, le roi Saül est un exemple, un contre-exemple pour le coup, c'est qu'il n'accepte pas les peines qui sont envoyées. En tant que chrétien, nous devons accepter les peines qui peuvent découler immédiatement ou beaucoup plus tard de nos désobéissances, de nos péchés. Il faut les accepter et se soumettre à la main de Dieu. Enfin, on voit que si on continue dans cette voie, désobéissance, non-acceptation des peines, des épreuves, on tombe de plus en plus bas. C'est ce qui se passe avec le roi Saül. Il se tourne vers la divination pour connaître la volonté de Dieu. Hein, alors que la volonté de Dieu, il la connaissait. Il la connaissait, la volonté de Dieu, c'était que lui n'était plus roi, que c'était David le roi. Donc la volonté de Dieu, c'était qu'il se soumette au roi David, il soit un bon général des armées, etc. Et voilà. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Mais, étant donné qu'on refuse cette réalité, on refuse l'obéissance, on risque de tomber de plus en plus bas. Donc, nous devons regarder avec beaucoup d'attention ces exemples de la Sainte Écriture pour en tirer une leçon pour notre vie. À savoir, reconnaître que nous sommes oints par Dieu, effectivement. Nous sommes choisis par Dieu et c'est une grande grâce. C'est une grande responsabilité et donc il faut agir et penser avec beaucoup d'humilité. Se reconnaître pécheur lorsque nous avons péché, accepter les peines de la part de Dieu. Et là, effectivement, nous pourrons aborder sereinement le reste de notre vie, pas malheureusement comme le roi Saül qui a mal fini. Nous verrons peut-être la semaine prochaine bien l'exemple, le contre-exemple par rapport à Saül du roi David, exemple pour notre vie chrétienne. Mais en attendant, retenons ces leçons, leçon d'humilité, leçon d'obéissance à Dieu, l'obéissance vaut mieux que la prière, que le sacrifice, etc. Leçon de pénitence, leçon d'humilité, je le répète. Donc demandons à Dieu et au prophète Samuel de bien tirer les leçons de ces exemples de la Sainte Écriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.